nouvelle édition de l'économie en question, très attendue, la dernière décision de l'année de la Banque Centrale Européenne sera observée d'encore plus près peut-être qu'à l'accoutumée par les marchés financiers. Un vaste programme de rachat d'actifs, le fameux quantitative easing, l'assouplissement quantitatif qui était prévu pour s'interrompre en mars 2017. Allait-il être prolongé? Beaucoup, à vrai dire, le pensaient. Confirmation, ce sera 9 mois de plus et la Banque Centrale assure d'ailleurs qu'il sera adapté pour surmonter d'éventuels obstacles techniques. La surprise, en revanche, est peut-être venue du montant mensuel. Il passe de 80 milliards d'euros d'obligations, donc acquises chaque mois, à 60 milliards. Nous verrons si cette différence a une grande importance. Avec nos invités, ce sont donc plus de 500 milliards d'euros de plus qui vont être injectés dans les marchés l'année prochaine. Mario Draghi, donc le président de la BCE, veut, semble-t-il, convaincre que sa politique monétaire reste favorable à la croissance. Pourtant, l'inflation, comme on le sait, et nous l'avons souvent dit dans cette émission, reste encore un peu trop faible. L'économie de la zone euro va mieux, certes, mais il y a aussi beaucoup d'incertitudes politiques avec les élections à venir, notamment en France, aux Pays-Bas, en Allemagne, avec également l'Italie qui vient de rejeter par référendum un projet de modification de sa constitution, mais plus sûrement encore vient de rejeter les réformes engagées par son président du Conseil, Matteo Renzi. L'Italie qui, par ailleurs, a de grandes difficultés avec ses banques. Nous allons aussi y revenir. Et c'est bien de tout cela que nous parlons aujourd'hui. C'est l'économie en question. Bienvenue à tous. Sont avec nous aujourd'hui, je les salue, Patrick Artus, chef économiste Natixis, Agnès Benassi-Quéret, chef du conseil d'analyse économique, et Céline Antonin, observatoire français des conjonctures économiques, spécialiste d'ailleurs, entre autres choses, de l'Italie. On va revenir avec elle sur cette actualité très récente. Et nous sommes heureux d'accueillir également Vincent Grimaud, journaliste à Alternative Économique, notre partenaire pour cette saison. Bienvenue Vincent, en toute fin d'émission. Vos chiffres à tous les quatre, et on verra lesquels vous avez mis en avant, et on commencera par celui d'Alter Echo. C'est bien l'économie en question jusqu'à 12h30. Alors très vite peut-être pour les uns et les autres, votre analyse en fait de ce qui s'est dit hier, de ce qui s'est dit jeudi à la Banque Centrale Européenne. C'était une réunion attendue, mais semble-t-il, vous aviez prévu les uns et les autres que la banque allait prolonger. Je rappelle qu'elle avait déjà, elle était partie à 60 milliards d'euros de rachat d'actifs chaque mois, puis passée à 80, je crois que c'était en mars dernier. Et de nouveau, elle redescend à 60 milliards. C'est la vraie nouveauté. Pour le reste, il était prévu, Agnès Benassi-Quéret, qu'elle poursuivrait ses rachats d'actifs. Je veux dire qu'elle poursuivrait son aide, en fait, aux banques.
C'est quand même assez surprenant qu'on s'étonne, puisque la BCE, depuis un temps quand même maintenant long, a raté son objectif d'inflation. Elle est en dessous de son objectif de 2%. Bon, c'est vrai qu'elle accepte d'être en dessous de 2%, mais pas au point où on en est là. L'inflation qu'on appelle le core, l'inflation sous-jacente, et encore, elle ne bouge pas, en fait, elle ne remonte pas. Draghi, je crois, a annoncé que la prévision de la BCE, c'était 1,7% à l'horizon 2019, donc on reste en dessous de 2%. Donc, dans ces conditions, la BCE a un schéma, un mandat qui est extrêmement clair, qui est d'atteindre une inflation proche de 2%. Et donc, on n'y est pas. Donc, les raisons pour lesquelles le QI pouvait être éventuellement, donc, a été réduit. Et puis, en fait, il y a eu des dispositions techniques aussi. C'est qu'en fait, c'est des raisons techniques, pour mettre en œuvre ces programmes d'achat tout en respectant la clé de répartition entre les pays européens. C'est-à-dire, ça veut dire acheter beaucoup concrètement de dettes allemandes. Ça suppose aussi la dette allemande étant très mal rémunérée, ça suppose d'aller chercher des bons dont la rémunération était inférieure à moins 0,4%, qui est le taux des dépôts à la BCE. Donc c'est en fait d'une certaine manière une forme de transfert via la BCE. Donc on n'était pas très à l'aise avec ça. Donc ils ont étendu, voilà, pour pouvoir le faire. Et ils ont aussi réduit le volume mensuel, évidemment, pour pouvoir le faire. Et rappelons aussi que
message envoyé au gouvernement quand même, de réduire. On commence à dire...
On réduit parce que
nous organiser aussi.
Ils ont fixé une limite de 33% par émetteur. Et donc, à un moment donné, il n'y aura plus assez de dettes disponibles à acheter pour rester en dessous de 33%.
Oui. Cette lutte contre l'inflation, on rappelle hein, pourquoi il est si important qu'elle remonte. Que les taux remontent, on est à zéro, très très bas actuellement.
Que les taux d'inflation remontent. Bah, oui. C'est le problème de la. Bon, on n'est pas dans la déflation, hein, au sens où les prix ne baissent
pas.
L'inflation, elle est très faible. Rappelons que c'est la moyenne de la zone euro. Et donc, si on veut que les pays reconvergent, il faut quand même que l'inflation soit plus élevée dans certains pays, donc plus, nettement plus élevée que 2%. En réalité, il faudrait qu'elle soit supérieure nettement à 2% en Allemagne.
Pour
que l'Italie ait une chance d'ajuster ses prix relatifs sans tomber dans la déflation. Quand on a une énorme dette, la déflation, c'est la pire des choses.
Patrick Artus, votre analyse, puis Céline, Antonin.
Je pense que la BCE est très irresponsable et qu'elle prend un considérable risque.
Autre point de vue.
Oui, et que ce sont des criminels. On a le Japon. Hein. Qu'est-ce qui se passe au Japon? Depuis des années, la Banque du Japon utilise le même argument. L'inflation est en dessous de celle que nous voudrions avoir, donc nous continuons le quantitative easing. Et que dit maintenant la Banque du Japon? Elle dit, maintenant qu'on a eu des taux d'intérêt extrêmement bas très longtemps, il est impossible de les faire remonter, puisque tout le monde a acheté des obligations avec des taux d'intérêt très bas, et le jour où les taux remontent, tous les détenteurs d'obligations vont mourir, et en particulier les banques japonaises, qui détiennent 2,4 années d'obligations dans leur bilan. Et la Banque du Japon explicitement dit, aujourd'hui, nous ne pouvons plus nous permettre l'ombre d'une remontée des taux, donc les taux d'intérêt vont rester à zéro jusqu'à la fin des temps. Et donc je pense que la BCE est bien partie pour être sur cette formidable lignée de la Banque du Japon, et donc nous allons continuer à avoir du quantitative easing. L'inflation,
c'est-à-dire qu'on va continuer à verser des liquidités, hein, c'est ça que ça veut dire,
Elle achète des obligations et elle paye. Alors vous disiez tout à l'heure, Dominique, que c'était soutenir les banques, ce ne sont pas les banques qui vendent des obligations, c'est essentiellement des non-résidents, donc des non-européens détenteurs d'obligations et un petit peu les assureurs européens. Les banques vendent absolument pas parce que pour des raisons réglementaires, elles doivent les garder. Donc c'est absolument pas un soutien aux banques, hein, soyons clairs, c'est un soutien...
Ce qu'on dit peut-être un peu trop, en fait.
Ça n'a rien à voir avec un soutien aux banques, c'est un soutien aux vendeurs de ces obligations qui sont souvent des non-européens. Et donc, on va sans doute avoir en Europe, comme au Japon, des taux d'intérêt très bas très longtemps, et donc on n'osera jamais plus les faire remonter, et donc nous serons, comme le Japon, condamnés à continuer cette politique jusqu'à la fin des temps.
Criminelle ou arrangeante, cette BCE?
Oui, alors moi je serais peut-être entre les deux. Bon, effectivement, je pense que il y a toujours un risque, hein, mener une politique monétaire très accommodante. Effectivement, on peut tomber dans une trappe à liquidité. Moi, je crois qu'on n'y est pas encore. On peut effectivement avoir des phénomènes de bulle. On l'observe pas. Enfin, en tout cas, moi, sur l'immobilier et sur les actifs financiers, moi, j'observe pas de phénomène de bulle. Je pense quand même qu'on n'a pas aussi le contrefactuel et qu'en réalité, on a quand même eu une situation, en tout cas, de tension sur les taux obligataires. Il y a quelques années en zone euro.
Faut expliquer un tout petit peu ce que vous nous dites.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on avait vraiment un clivage au sein de la zone euro. On avait des pays, donc comme l'Allemagne, qui avaient sur lesquels finalement tous les investisseurs étaient prêts à acheter de la dette. Et puis on avait des pays, l'Italie, l'Espagne, sur lesquels les investisseurs demandaient une prime de risque très importante. Et on avait un risque d'implosion de la zone euro. Et je crois que cette politique qui est menée actuellement par la BCE, elle a au moins déjà ce mérite de faire baisser les taux obligataires et les taux sur la dette souveraine. Et quand on voit les problèmes, notamment bancaires, que connaissent certains établissements italien. Enfin, moi, je pense que c'est plutôt bien qu'il y ait cette politique qui soit en place actuellement. Alors, sur le rythme, le fameux rythme de la décroissance, en tout cas du rachat par la BCE, il y a cette grande question qui a émané.
Ils ont baissé donc de 80 milliards par mois.
Est-ce qu'il y a du
tapering
ou pas? Enfin, est-ce qu'on réduit ou pas?
Est-ce que ça veut dire qu'ils vont réduire progressivement? Est-ce que c'est un message qu'ils envoient?
En tout cas, moi, je crois que le message, il est quand même plutôt dans le sens de on continue pour l'instant à acheter des liquidités. Enfin, on a vu quand même une prolongation du programme jusqu'en décembre 2017. C'est quand même plutôt un signe, à mon avis, dans le sens
Mais c'est donc qu'ils croient à la reprise. Et là où je vois, Patrick Artus, vous nous dites qu'ils sont en train de nous couler, mais ils y croient quand même. Ils pensent qu'ils soutiennent la reprise de la croissance.
Oui, enfin, la reprise est morte.
De leur point de vue.
Le problème de la croissance de la zone euro, on n'a pas parlé de politique budgétaire, mais c'est le même non-sens. La faible croissance de la zone euro sont des problèmes institutionnels ou structurels. C'est des problèmes d'éducation, c'est des problèmes de productivité, c'est des problèmes de modernisation du capital des entreprises. Ça n'a aucun rapport ni avec la politique monétaire, ni avec la politique budgétaire.
C'est des
problèmes structurels, de gouvernance, des systèmes de formation, des systèmes d'éducation, de gouvernance peut-être des PME. Et donc, avoir l'idée qu'en créant de la monnaie ou en faisant des déficits publics, on va régler ces problèmes, c'est totalement farfelu.
À court terme, ça peut avoir un effet. Après, je suis d'accord que ça n'empêche pas de faire des politiques structurelles à long terme et que certains pays en ont bien besoin. Mais, en tout cas, sur le court terme, une politique expansionniste monétaire ou budgétaire, ça a quand même des effets. Donc,
Juste, un dernier chiffre. On a eu une politique de relance de la demande extrêmement extrêmement puissante, ça s'appelait la baisse du prix du pétrole. Dans un pays comme la France, ça a donné 2 points de pouvoir d'achat aux consommateurs par la baisse des prix. Quand vous regardez les chiffres, pour chaque euro d'augmentation de la dépense des ménages, il y a eu 82 centimes d'importation. Donc je voudrais qu'on m'explique quel était l'intérêt de faire une politique de relance de la demande.
Et en même temps, ça profite aux pays extérieurs, donc oui. Mais non, mais aussi aux autres pays européens, parce qu'il y a beaucoup de commerce intra-européen.
Agnès Benassi, je pense qu'il faut quand même distinguer assez clairement la situation de la France et la situation de la zone euro. C'est ce que nous faisons d'ailleurs dans une note du CAE.
Alors je voulais le signaler qui vient juste de sortir et qui tombe tout à fait à point.
Sur les taux d'intérêt où nous avons fait très attention de distinguer les deux.
Taux d'intérêt très bas, on le rappelle partout.
Je suis d'accord que la France a un problème d'offre. Une relance par la demande en France, c'est pas évident que ça aurait un effet très fort direct par des canaux habituels. Une relance de l'investissement ou de la formation ou de la formation des formateurs, c'est peut-être une voie plus intéressante, c'est d'ailleurs ce qui dit dans la note. Mais au niveau de la zone euro, dire qu'il n'y a pas de problème de demande, ça me paraît quand même difficile à tenir, avec aussi peu d'inflation, avec un solde extérieur qui n'a cessé d'augmenter ces derniers temps. Rappelons que le solde extérieur, c'est l'excès d'épargne par rapport à l'investissement. Donc, s'il y a trop d'épargne, c'est bien qu'il n'y a pas assez de demande. Donc, au niveau de la zone euro, la Commission européenne récemment a proposé très courageusement, je dois dire, que les pays de la zone euro conjointement fassent une petite relance budgétaire de 0,5% du PIB. Cette proposition a eu une durée de vie d'à peu près 24 heures avant que l'Allemagne... Je pense qu'il y a une évolution aussi de la Commission européenne qui est intéressante à voir, pas seulement dans le domaine de ce domaine-là budgétaire, mais on l'a vu aussi dans le domaine, par exemple, avec le cas Apple, où la Commission pousse l'idée d'une zone euro ou d'une Union européenne qui se comporterait comme un grand pays et non pas comme une collection de petits pays. Ça, c'est très intéressant à regarder.
Non, juste sur le point de l'analyse. On a un excès d'épargne dans la zone euro. Il ne vient que d'un pays qui est de l'Allemagne. Et évidemment, le problème, et quoi qu'on dise ou qu'on dise aux Allemands, ils ne feront pas de relance budgétaire. Ils feront une relance budgétaire minimaliste. Et donc, le problème, c'est pas de faire de la relance budgétaire. Le problème, c'est de convaincre les Allemands de recommencer à prêter leur épargne dans le reste de la zone euro. Et de rétablir cette circulation de l'épargne qui permettrait d'avoir plus d'investissements dans le reste de la zone euro. Ça, c'est un point extrêmement important. Simplement, si le reste de la zone euro continue à dégrader sa situation budgétaire, ça va être totalement contre-productif parce que ça va encore plus décourager les Allemands de prêter leur épargne aux autres Européens. Donc, c'est au contraire la rigueur budgétaire dans le reste de l'Europe qui peut régler notre problème en convainquant les Allemands qu'il est à nouveau possible de prêter leur épargne au reste de l'Europe.
Et c'est pas évident de les convaincre, apparemment.
Oui,
c'est
mais
pas
alors, je crois qu'on ne peut pas dire que les autres pays européens dégradent leur situation budgétaire. Parce que quand on regarde ce qui se passe, dans un certain nombre de pays, enfin, je veux dire, tous sont quand même sur la voie de réduction des déficits. Alors, est plus ou moins rapide.
Dans tous ces pays, le taux d'endettement public continue à augmenter.
Il y en a certains qui sont sur le point de le stabiliser. On a quand même, à marche forcée, en tout cas pour certains, même en France. Alors, même si les progrès ne sont pas rapides, je vous l'accorde, on arrive péniblement.
Quand même, on a réussi.
On est quand même parti de moins 7. Donc, quand même, enfin, je veux dire, on est en phase de en tout cas, de moindre aggravation des déficits, de baisse des déficits.
Tant que tous les investisseurs en Allemagne seront convaincus que le reste de la zone euro ne gère pas sérieusement ses finances publiques, il n'y a aucun moyen de rétablir la circulation des capitaux. Et donc, je pense que la relance budgétaire en dehors d'Allemagne, en Allemagne, ça serait une très bonne chose, d'accord. Sauf qu'ils ne le feront pas. Donc, il faut être réaliste. Je dirais, ça serait une très bonne chose, mais ils ne le feront pas. Et en dehors d'Allemagne, je pense que c'est très dangereux, parce que ça renforce la conviction des Allemands que les autres ne sont pas sérieux.
Céline Antonin, la situation italienne, donc on sort de ce référendum, Matteo Renzi l'a perdu, en a tiré les conséquences, a démissionné après le vote du budget, ce qui lui avait été demandé par son président, et aujourd'hui les banques italiennes sont réellement en difficulté, là encore la BCE fait savoir qu'il faudrait qu'elles se prennent un peu en main.
Oui, alors effectivement, on a une situation des banques italiennes qui pose souci. Alors on l'avait vu déjà au moment des tests de résistance, donc à l'été 2016, avec notamment, alors sans rentrer dans les détails techniques, mais effectivement un ratio de fonds propres qui était insuffisant dans les scénarios stressés, donc les scénarios justement défavorables. Et donc ce qui se passe, c'est que effectivement, on a au total en plus des banques qui sont grevées par les créances douteuses. Donc on a 360 milliards d'euros de créances douteuses. Dans les banques italiennes, on a à peu près.
En comparaison, c'est énorme ça par rapport à d'autres. Je sais pas. J'aime bien comparer les chiffres.
Les créances douteuses non provisionnées, c'est à peu près la moitié de ça. Donc.
Oui, mais il y a quand même, enfin, ils ont provisionné 45%, mais il y a quand même, il reste.
Ouais, il reste 180 milliards.
Ouais. Oui, c'est ça. Donc, c'est quand même beaucoup. Mais c'est quand même un bon montant. Enfin, si on le rapporte en tout cas au PIB italien, on a quand même plus de 10%. Enfin, donc,
voilà,
donc c'est quand même effectivement un montant important. Et alors, notamment sur une banque, donc, qui est la banque Monte Paschi di Siena, et qui, effectivement, alors, était en voie de recapitalisation, donc avec 5 milliards d'euros de recapitalisation, mais pour laquelle c'est un peu un bras de fer encore. Alors, en plus, ce qui s'était déjà passé à la fin de l'année 2015, c'est qu'il y avait déjà eu 4 banques qui avaient connu des difficultés financières. Donc, et avec le mécanisme actuel, puisqu'on est actuellement en phase d'instauration de l'union bancaire, avec un phénomène de bail-in, donc c'est-à-dire que la banque doit la banque doit se restructurer finalement par ses propres moyens et ne peut plus, a priori, on a essayé de couper le lien avec l'État souverain, en fait. Et donc, il y a en plus cette montée en puissance du bail-in qui fait que ça rend l'aide, la recapitalisation par l'État italien plus compliquée. Donc, on est en plein processus.
Un gros souci devant lui, avec un gouvernement qui n'est pas formé.
D'un côté, l'Italie de l'autre, qui en plus est en proie à des difficultés institutionnelles et politiques, ça rend les choses très compliquées.
Les effets pour l'Europe et pour les Italiens eux-mêmes, dont on dit beaucoup que leur épargne, justement, est très menacée par ces difficultés des banques italiennes, contrairement à d'autres pays, Patrick Artus.
Oui, je prends la suite. Le problème, évidemment, je crois, ça pose une question majeure qui est-ce que les règles de bail-in, donc d'interdiction pour les États de recapitaliser les banques, sont tenables? Et la réponse est non. C'est-à-dire que cette loi, ça ne sera jamais appliquée. C'est-à-dire que on voit bien, quand il y a une petite banque en difficulté dans un pays, on peut la faire racheter par une grande banque. Et ça, quand tout le système bancaire est en difficulté, ce qui est le cas en Italie, il est incapable de lever des fonds propres auprès d'investisseurs privés. Donc, de toute façon, il y aura bail-out. On a voulu faire de la morale au lieu de faire de l'économie. Et donc, de toute façon, il y aura bail-out. Et il reste de savoir sous quelles conditions. Et je pense qu'on aurait pu réfléchir à un bail-out évitant les incitations à la prise de risque qu'on avait dans le régime antérieur, ce qui aurait été plus intelligent que le bail-in. Bon, et là, on voit que, juste pour que nos éditeurs comprennent la grande bizarrerie du système bancaire italien, c'est que les dettes des banques sont très souvent détenues par les clients des banques. Oui. En France, les dettes des banques sont détenues par les assureurs-vie.
Voilà, c'était la différence que je voulais souligner.
Et personne, aucun homme politique italien n'a envie de ruiner les clients des banques, quoi. Parce que sa vie politique serait terminée le jour où il le ferait. Et donc, évidemment, le grand débat entre Bruxelles et le gouvernement italien, c'est que le gouvernement italien veut mettre de l'argent public dans ses banques et veut éviter de ruiner les porteurs de dettes des banques, alors que les règles européennes l'imposent, quoi, de les ruiner. Donc, un truc dont on ne sait pas trop comment il va se terminer.
Pas très rassurant, Céline Antonin, et les effets pour nous autres Européens.
Juste pour rajouter un mot, c'est qu'effectivement, cette règle a quand même quelque chose de très arbitraire. C'est qu'on voit bien que quand on a une crise bancaire, on ne peut pas non plus totalement la séparer de ce qui peut se passer au niveau d'un pays. Enfin, je veux dire, les banques, c'est quand même l'argent des ménages, l'argent des entreprises. Oui. Et on ne peut pas dire que l'État doit s'en laver les mains, d'autant qu'il y a vraiment un aléa moral important, et en économie, ça compte aussi. C'est-à-dire qu'on l'a vu, ne serait-ce qu'à Chypre, quand on a parlé déjà, c'était les prémices de ce bail-in. Je veux dire, on a vu les réactions que ça avait créées, et même au sein de la zone euro, avec un phénomène de, pour certains, de mini-panique. Donc, clairement, je pense que c'était très compliqué et ça reste très théorique, en fait, comme idée.
Oui, Agnès Benassi-Kerès, sur ce point.
Il faut peut-être quand même rappeler pourquoi est-ce qu'il est venu dans l'esprit de nos sages dirigeants européens d'introduire ces règles dites de bail-in. Je crois qu'il y avait quand même... l'opinion publique était favorable au bail-in.
L'opinion publique veut la peau des banques.
Parce que qu'est-ce qu'on a fait ? On a privatisé les gains socialiser les pertes et on voit, il y a le FMI qui ne peut pas être taxé d'être partisan, avait fait des calculs que de l'aide publique implicite des banques, du fait que grâce à cette garantie publique qu'ils ont implicitement, ils empruntent.
C'est pour ça que je suggérais une garantie
beaucoup moins chère.
Que je suggérais une garantie explicite et payante. Et pas une garantie implicite et gratuite.
La garantie explicite et payante, c'est ce qu'on essaye de mettre en place avec en particulier la garantie des dépôts, qui serait payée par le système bancaire lui-même. Mais là, même les banques françaises ne sont pas d'accord parce qu'ils disent on fera ça, mais une fois que la situation sera clarifiée.
Une fois qu'on sera consolidé.
Donc, il faut voir d'où on vient aussi, parce qu'au début de la crise, on a commencé par faire du bail-out, c'est-à-dire exactement le contraire, où en Irlande, ça a été impressionnant à quel point les problèmes bancaires sont devenus du jour au lendemain des problèmes publics, et on a même monétisé en réalité la crise bancaire irlandaise. En fait, techniquement, si on veut vraiment sauver la zone euro, on sait faire, mais il faut simplement se sortir des contraintes légales. Si on n'avait pas les contraintes légales, il n'y a aucun problème.
Ouais. Mais voilà. Je parlais des incertitudes politiques.
Les contraintes légales et politiques, bien sûr, bien évidemment politiques.
Dans voilà. Une année électorale comme celle qui nous attend, ça va être compliqué.
Donc on vient d'une situation totalement inverse. On voudrait aller vers des règles plus strictes et qui disciplinent les marchés vis-à-vis des mauvaises banques. Et ben, on a le cas classique de la transition, comment on fait pendant la transition. Et on est obligé de faire quelques arrangements parce que sinon, on n'y arrivera jamais.
Non, mais je pense que ce n'est pas une droite.
Patrick Artus.
Je pense que le système final ne peut pas être le système de Bail-in. Parce que ça ne marchera pas à nouveau. C'est quand il y a une crise bancaire globale dans un pays comme l'Italie, faut aussi dire que la crise italienne, c'est pas du tout la queue de la crise de 2008. Il y a pas de croissance en Italie. Le taux de défaut des ménages cette année en Italie sur leur crédit, c'est 6%. C'est absolument monstrueux, quoi. Je veux dire. Donc c'est un enchaînement vicieux. Comme il y a pas de croissance, les gens font défaut et ils remboursent pas leurs banques. Donc les banques vont mal. Donc les banques prêtent pas. Donc il y a pas de croissance, quoi. Et donc c'est un cercle vicieux épouvantable dont il faudrait arriver à sortir à la fois en nettoyant les banques, mais aussi en retrouvant de la croissance.
Oui, et puis je pense il y a aussi un pilier manquant à l'union bancaire qui est la séparation des activités bancaires, en fait. Et je pense que ça devrait être inclus dans l'union bancaire, alors que ça ne l'est pas. On parle de garantie des dépôts, mais je pense que séparer les activités de marché et les activités de dépôt, en fait.
On a progressé là-dessus tout de même, non?
On a progressé, mais à mon avis, il y a encore un petit peu de chemin à parcourir. Donc,
à votre avis, il y a encore.
Oui, et c'est vrai que comme le disait Agnès Benassi-Kéré, on est vraiment dans une phase de transition. Et c'est vrai que du coup, c'est compliqué parce qu'on a des fonds de mutualisation qui doivent se mettre en place, qui ne sont pas encore mis en place. Enfin, donc, c'est vrai que dans la période transitoire, comment on gère les choses, c'est compliqué. On peut pas à la fois faire du bail-out et en même temps le bail-in n'est pas vraiment en place. Enfin, donc
le mécanisme européen de stabilité devait initialement pouvoir intervenir directement dans les banques, ce qui aurait coupé là aussi le lien entre la banque et le souverain, puisque le mécanisme européen de stabilité, comme son nom l'indique, est européen et avec des fonds, soit pour prêter aux États en difficulté, soit il pouvait prêter directement dans les banques. Or, il a été décidé que ça ne pourrait avoir lieu que si, premièrement, tous les créanciers avaient été rincés, deuxièmement, l'État était à bout de force, ne pouvait plus intervenir. Donc, en dernier recours et uniquement en situation de crise absolue. Et donc, le mécanisme européen de stabilité ne peut pas intervenir de manière préventive. Ce qui est un peu problématique si on veut éviter justement des crises systémiques.
Vous êtes en train de pointer quand même pas mal de défauts qui subsistent dans le fonctionnement de cette Banque Centrale Européenne, quels que soient les souhaits de son président, Mario Draghi, cette réunion de jeudi.
Il y a eu un défaut de réflexion dans... Évidemment, il fallait re-réglementer les banques. Mais dans la réglementation des banques, il y a une montagne de défauts de réflexion. Il y a ce qu'on vient de discuter. Il y a le fait qu'on a cru que quand les banques auraient plus de capital, elles se financeraient pas plus cher. Évidemment, elles se financent beaucoup plus cher. Donc, le financement bancaire est devenu beaucoup plus cher. Enfin, il y a eu une absence totale de raisonnement et de réflexion sérieuse sur la façon dont on a réglementé les banques. Donc, il va falloir, de toute façon, recasser tout, je pense, sur la réglementation des banques et remettre à plat et réfléchir.
Et le plus vite possible, si je vous entends bien.
Avant que toutes les banques disparaissent, ça serait pas mal.
Eh ben merci, c'est très bien. Matin, que des bonnes nouvelles. Les banques et l'argent que nous aurons mis dedans. En tout cas, pour l'Italie, c'est une vraie menace.
Oui, quand même, oui. 100 000 euros, normalement, qui sont
pour les auditeurs, hein, donc il y a une garantie des dépôts.
Voilà, donc ne retirez pas votre argent des banques.
Merci pour ces nouvelles très, très encourageantes. On va passer à nos petites chroniques et à nos chiffres avec Vincent Grimaud d'abord et vous-même. Vincent Grimaud, Alternative économique, vous êtes venu avec un chiffre qui n'a rien à voir avec notre sujet.
Non, mais qui est tout aussi réjouissant. On a parlé de choses graves, on va parler de choses très graves. C'est bien sûr la pollution de l'air. Et vous le savez, les inégalités sont partout et elles sont aussi dans l'air que nous respirons. Le voile grisâtre qui entoure la tour Eiffel depuis quelques jours, ou les tours de la Part-Dieu à Lyon, ou même les vallées encaissées des Alpes, ne frappe en fait pas tout le monde de la même manière. Alors c'est vrai, tout le monde est touché, mais chaque fois que à Paris la teneur de l'air en dioxyde d'azote augmente de 10 microgrammes par mètre cube, eh bien le nombre de décès augmente de 0,1%. Ça, c'est pour tout le monde. Mais si l'on vit dans un quartier pauvre, on a 3 fois plus de risques de mourir suite à une hausse de la pollution. À l'inverse, si l'on vit dans un quartier riche, on a moins de risques de mourir que la moyenne lors d'un épisode de pollution. Alors spontanément, on se dit que c'est logique, puisqu'on imagine souvent que les pauvres vivent dans des quartiers plus pollués. Eh bien, à Paris, c'est tout le contraire. Les quartiers les plus pollués sont autour de la maison de la radio de Radio France, donc c'est ici. Tout le nord-ouest parisien, les quartiers riches, les Champs-Élysées, les grands boulevards.
Il suffit de regarder par la fenêtre,
d'ailleurs. Bref, partout où il y a des grands boulevards et que les voitures roulent massivement. Donc, en résumé, il vaut mieux vivre dans un quartier riche et pollué que dans un quartier pauvre relativement moins pollué.
Et comment vous expliquez cela, là? On n'a pas suivi tout.
Eh bien, en fait, le problème est moins géographique que social, parce que les personnes les plus riches vivent en général en meilleure santé, et la pollution ne tue pas directement, elle, elle vient en fait frapper les personnes fragiles et ajouter un cocktail un peu dangereux. La deuxième raison, c'est que les personnes les plus aisées vivent en général dans des logements bien isolés ou dans des lieux de travail qui sont peu pollués, comme ce studio, allez, on espère. Et puis, troisième raison, les plus riches ont également plus souvent la possibilité d'échapper à la pollution, bien entendu, quand ils partent en week-end ou quand ils partent en vacances. C'est tout l'inverse pour les plus pauvres qui, s'ils vivent dans des quartiers globalement moins pollués, eh bien vivent dans des micro-environnements plus pollués, ont une santé globalement moins bonne et peuvent moins souvent échapper à la pollution. Et puis, il y a enfin quand même un critère géographique différent à Paris et ailleurs. À Lyon, par exemple, ce sont les classes intermédiaires qui vivent dans les quartiers les plus pollués. Et à Lille, ce sont carrément les plus pauvres qui vivent dans les quartiers les plus pollués. Ils subissent donc une double peine. À la fois sociale et géographique. Allez, une bonne nouvelle quand même, parce que c'est le week-end. La pollution de l'air, ce n'est pas du tout une fatalité. Nos voisins européens font beaucoup mieux. Alors peut-être faudra-t-il penser à une union de la pollution de l'air qui fonctionnerait mieux que l'union bancaire, on verra. En tout cas, ce serait une mesure non seulement écolo, mais aussi sociale.
Et là aussi, elle passe par la politique. Merci beaucoup Vincent Grimaud. Vos chiffres aux uns et aux autres, qui veut commencer? Agnès Benassi-Carret.
Oui, alors c'est 99.
Ouais.
Donc c'est un chiffre tiré du panel des experts européens mis en place par l'Université de Chicago. Et donc 99% des experts interrogés sont d'accord ou même parfaitement d'accord avec l'assertion suivante. La libre circulation de la main-d'œuvre dans l'Union européenne a été positive en moyenne pour les citoyens européens depuis 1980. Alors ça nous dit que les économistes qui ne sont jamais d'accord parfois sont quand même d'accord. En tout cas, ceux qui ont été interrogés. Ça nous dit aussi qu'il faut faire attention aux détails. Par exemple, là, c'est en moyenne. Et le fait que ce soit en moyenne est très important. La question suivante porte sur les personnes avec un faible niveau de diplôme. Et là, les experts sont beaucoup moins d'accord. Donc je pense que c'est à la fois c'est quelque chose de très positif parce que ce genre d'initiative nous permet de dégager quand même des domaines où il y a un certain consensus parmi les experts et également là où il y a encore du travail à faire pour les mettre d'accord.
Merci beaucoup Agnès Benassi-Carret. Céline Antonin, votre chiffre cette
semaine. Oui, alors mon chiffre c'est 20%, donc c'est la hausse en fait de la rémunération des dirigeants des 120 plus grandes entreprises françaises entre 2014 et 2015, donc que j'ai vu cette semaine, donc des entreprises cotées en bourse, et donc on est en moyenne à 3,5 millions d'euros. Et alors ce qui est assez notable dans ce que j'ai lu, c'est que c'était effectivement pas forcément lié à la performance de l'entreprise, puisque dans le même temps en fait la valeur des actions n'avait cru que de 8%, et que le salaire moyen des employés avait cru de 2%. Donc voilà, par rapport aux 20%, en tout cas, c'est vrai qu'on se dit
qu'il
y a quand même de la marge, effectivement.
Merci. Enfin, Patrick Artus, chiffre.
Vous savez que Donald Trump a dit que les Chinois manipulaient leur taux de change. Or, quand on regarde le dernier chiffre...
Donald Trump dit beaucoup de choses.
Oui. Ben, Donald Trump, oui, il tweet beaucoup. Mais quand on regarde le dernier chiffre de novembre, la Chine a perdu 50 milliards de dollars de réserves de change dans le mois. Ce qui veut dire que quand vous perdez des réserves, pour nos auditeurs, ça veut dire que vous vendez des dollars et vous achetez votre monnaie. Donc les Chinois ont empêché leur monnaie de se déprécier. Donc c'est de l'anti-manipulation, en réalité. Donc Donald Trump devrait regarder les chiffres des réserves de change de la Chine.
Et beaucoup d'autres choses encore, si je peux me permettre. Merci beaucoup. C'était donc Patrick Artus, chef économiste Natixis. Agnès Benassi-Carret pour le Conseil d'analyse économique qui sort cette note. Taux d'intérêt très bas, symptômes, opportunités. Là, vous parlez de la France, mais vous donnez aussi quelques recommandations, conseils très précis pour l'Europe, dont nous venons de parler, bien entendu, et la politique de la BCE. Céline Antonin pour l'Observatoire français des conjonctures économiques. Et un grand merci à Vincent Grimaud qui est venu nous voir avec sa chronique pour notre partenaire Alternative Économique. Notre petite équipe aujourd'hui, Pierrick Francini, accompagné Ghislaine David qui réalise l'émission. Merci beaucoup à elle, Laurence Genepin bien sûr, pour la préparation, pour la documentation. Venez nous voir sur notre site, nous allons vous conseiller pas mal de lectures sur tous ces sujets, un peu techniques peut-être, mais extrêmement importants pour l'année qui vient, on le verra certainement. Et venez aussi nous retrouver sur Twitter, on aime bien tweeter nous aussi comme Monsieur Trump, un peu moins d'ailleurs. Très bonne journée à tous, à samedi prochain.